RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Réagissez également sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagroulet, qui est directeur des relations investisseurs chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alain.
Ainsi que Ludovic Beribos, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir, la chance même d'accueillir Nicolas Hubert, qui est le CEO de Mileis Bank. Bonjour Nicolas.
Bonjour Alain.
Alors, vous êtes diplômé de l'EDEC, doublé d'un London Business School. Et pareil, vous avez vécu au Mexique à une époque ?
Absolument, j'ai fait ma coopération au Mexique.
Combien de temps vous étiez là-bas ?
Les 16 mois réglementaires.
16 mois basés où exactement ? Parce que c'est un grand et beau pays. Quoi.
C'est un grand et beau pays à Mexico City.
Mexico City. Alors ensuite, un souvenir de votre période chez Lehman Brothers, entre New York et Londres ?
Entre New York, Londres, un tout petit peu Paris à la fin. Un souvenir de longs tunnels, c'est-à-dire de longues semaines, de longues nuits au bureau. On n'avait pas d'iPhone à l'époque. On avait des fax, on avait un certain nombre d'outils qu'on a plus aujourd'hui. Donc beaucoup de travail, très instructif, très formateur à l'époque.
Lazare également entre la France et la Belgique là.
Alors France, mais je couvrais aussi la Belgique. Mmh. Là aussi, beaucoup de travail. J'ai travaillé avec des gens formidables. J'ai trouvé des mentors. J'ai travaillé sur des très belles opérations de fusion-acquisition. Une maison très attachante dans laquelle j'ai passé 7 très belles années.
Et alors, changement de décor, Blackstone.
Oui. Donc, je reviens sur une maison américaine entre Paris et Londres. Là, je suis passé dans le monde du private equity, dont ce que je crois, en tout cas le plus gros, mais je crois l'une des plus belles maisons de private equity. Très instructif, et j'ai eu une chance immense à ce moment-là, c'est que, étant en Paris, Steve Schwarzman, le fondateur de Blackstone, a passé 2 fois 6 mois à Paris, et donc j'ai eu la chance de travailler avec lui en direct. En fait, le problème, c'est que comme New York ouvre à peu près à 13h-14h française, il fallait l'occuper le matin. Et donc j'avais la chance de pouvoir l'emmener à des rendez-vous. C'est un monsieur absolument extraordinaire. Un puits de culture.
Alors, on parle de Mileis Bank. Un mot sur l'historique. C'est tout jeune ou c'est très ancien ?
Les deux, mon capitaine. C'est très ancien parce que c'était une dame qui en fait est l'ancienne Barclays France.
D'accord.
Créée en 1917, pour la petite histoire, pour payer la solde des soldats britanniques sur le front de la Première Guerre mondiale. Donc après, une expansion, des acquisitions. Et puis en 2017, Barclays vend Barclays à un fonds d'investissement qui s'appelle Anacap, qui est l'actionnaire actuel. Et donc, Mileis a changé de nom il y a désormais 4 ans.
Qui a trouvé le nom ? Parce qu'il est sympa comme nom.
Et donc, c'est une maison jeune. Qui a trouvé le nom ? C'est le comité exécutif sur les conseils d'une agence.
Donc, vous n'avez pas payé
On a fait les deux, payé. On n'a pas finalement suivi le conseil qui nous avait été donné.
Mais vous l'avez payé.
Mais on l'a payé. Et puis, on en est très content parce qu'aujourd'hui, la notoriété de Mileis, elle est de plus d'un tiers de notre cible de clients, c'est-à-dire des patrimoniaux à conquérir.
Ce qui est énorme en peu de temps. Quoi.
Ce qui est bien, oui, bien.
Donc, les différents métiers que vous proposez, vous avez plusieurs services, une offre globale.
Alors, nous, on propose de la banque privée à nos clients, mais on l'offre à partir d'un seuil de 100 000 euros, qui est un seuil assez accessible, parce que beaucoup de maisons de nos concurrents ouvrent à partir de 500 000, voire 1 million, voire parfois, pour une certaine banque américaine, 20 millions. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Et donc, nous, on ouvre ces services de banque privée à des clients plus, qui ont moins d'encours à nous confier.
Donc, vous misez aussi sur l'avenir, aussi, quelque part.
Et on mise sur l'avenir et on raisonne surtout en famille. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux chefs de famille, on s'intéresse à ses enfants, à ses cousins, à ses neveux, à ses nièces.
Et la clientèle, elle vient d'où ? Des grandes villes, de la campagne,
Alors,
où sont vos clients ?
Nos clients, ils suivent les zones dans lesquelles le PIB par habitant est élevé, c'est-à-dire bien évidemment Paris, la région parisienne, puis la Côte d'Azur, puis la région lyonnaise, puis la région lilloise, puis la région bordelaise, la région toulousaine. Ce sont essentiellement des grandes villes, mais nous sommes aussi présents dans les territoires. On a d'ailleurs un partenariat avec Groupama, qui nous aide à nous développer dans les régions.
Mileis, en Europe, demain, c'est jouable, c'est imaginable. On se concentre d'abord sur la France et on verra après.
Alors, aujourd'hui, on a 60 000 familles clientes sur un marché de 2,6 millions. 2,6 millions familles potentiellement clientes. Donc, on a un tout petit peu de marge de manœuvre avant d'avoir une part de marché significative et de penser aux autres pays. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en fait, les marchés de banques privées sont très fragmentés, très segmentés. Les problématiques des fiscales, de transmission, ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Les produits sont différents. Et donc,
il n'y a pas autant de synergie que ça naturelle.
Non.
Ludovic,
oui, j'ai pris
vous êtes client chez Mélisse Bank ou pas?
Je ne connaissais pas, figurez-vous.
Il faut y penser, Ludovic.
Je vais y penser. Ouais. Je sais pas,
on se voit après.
Je n'ai pas atteint le cap des 100 000 encore. Donc,
oui,
on vit sur la vie.
100 000 euros, ce n'est pas 100 millions. Hein.
Ouais, vous êtes sur un marché qui est quand même ultra compétitif. Ouais. Et c'est vrai, quand on parle de profil de vos clients, effectivement, il y a des family office aujourd'hui. Ouais. Vous apportez des offres de conseils en optimisation du patrimonial. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui sur ces marchés-là?
Alors vous avez raison, on ne manque pas de concurrents. Des concurrents, on en a parmi les grandes banques françaises qui ont des filières de banques privées, parmi des maisons indépendantes aussi, parmi des maisons étrangères. Je dirais, ce qui nous différencie, je crois, d'abord, c'est l'humain. C'est-à-dire que nous, en face de nos clients, on met des femmes et des hommes. À la fois des banquiers privés, des assistants et puis des spécialistes de transmission sur les marchés financiers. Donc, on met des femmes et des hommes devant nos clients. Et à côté de ça, on met du digital. Donc, on essaie de marier humain et digital. On peut, à notre avis, pas être complètement humain et pas être complètement digital parce que en fonction de vos problématiques, certaines peuvent se résoudre par du digital. La banque au quotidien, vous avez votre téléphone, votre banque au quotidien, elle peut tout à fait se résoudre avec se traiter avec votre téléphone. En revanche, si vous avez des problématiques complexes de succession,
patrimonial,
des entrepreneurs, oui, de patrimonial, de développement de votre patrimoine, il faut que vous parliez à une femme ou à un homme. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on mise. Donc, on mise sur la qualité de service, petit 1 et petit 2, et j'en termine par là, mais c'est important, c'est évidemment la performance des produits financiers que nous offrons à nos clients. Et ce que nous offrons, nous, ce ne sont pas des produits Mélisse, ce sont des produits des meilleures maisons de gestion de la place.
Et donc, vous n'êtes lié avec personne, quelque part.
On est lié avec personne.
Les meilleurs produits.
On choisit les meilleurs produits pour nos clients. Et les performances, elles étaient bonnes l'an dernier parce que le marché était facile. Et elles sont loin d'être mauvaises, en tout cas bien meilleures que beaucoup de nos concurrents cette année, dans une année ô combien difficile. Donc, la performance.
Donc, vous avez effectivement une offre de conseil en optimisation patrimoniale. Est-ce que vous accompagnez aussi vos clients dans l'obtention de financement? Est-ce que vous proposez des solutions de crédit?
Oui, tout à fait. Notamment du crédit immobilier à des clients patrimoniaux, exclusivement à des clients patrimoniaux. Mais on a
donc
un bilan.
Il faut mettre 100 000 euros chez vous pour pouvoir bénéficier d'un crédit à 17%.
Alors, c'est quoi les taux sur 20 ans?
Alors, les taux sur 20 ans, ils changent tous les jours. La BCE vient d'annoncer une hausse des taux. Les taux sur 20 ans, ils restent très compétitifs. On reste un marché extrêmement peu cher du crédit. Alors, évidemment, on se finance plus à 0,3, 0,4%. Oui, ouais. Ça a augmenté, mais quand vous regardez l'inflation, quand vous comparez à l'inflation...
Oui, c'est très, très raisonnable.
C'est très, très, très raisonnable. Mais effectivement, on prête à nos clients qui nous confient du patrimoine qu'on optimise et qu'on valorise.
Alors, vous avez dit deux choses intéressantes, la digitalisation...
Le reste dedans ?
Non, deux que j'ai retenues, la digitalisation et le service client. Sur la digitalisation aujourd'hui, comment vous travaillez notamment sur ces innovations qui permettent de mieux adresser, mieux servir, mieux conquérir, parce que j'ai cru comprendre que c'est un de vos objectifs forts.
Oui, la digitalisation en banque privée, elle passe largement par des outils de simulation de patrimoine, par des outils de reporting. Nos clients veulent pouvoir parfois simuler leurs performances, simuler leurs investissements, même si nous offrons beaucoup de gestion sous mandat, de gestion pilotée. Donc, ce sont ces outils-là et le reporting. C'est-à-dire que quand vous êtes client, vous avez envie de savoir où vous en êtes, ce que vous avez gagné depuis le début de l'année, ce que vous avez éventuellement perdu. Ce sont vraiment les deux axes sur lesquels on travaille. Ça, c'est sur la partie front, donc la partie qui est directement liée au client. Et puis, sur la partie back, que les clients ne voient pas nécessairement, ce sont tous les gestes digitaux faits par nos banquiers, faits par nos assistants pour améliorer les processus et accélérer les temps de traitement pour nos clients.
Vous travaillez pour les entreprises également ou c'est 100% particulier et foyer, hein?
C'est 100% particulier. Par contre, on se développe de plus en plus sur les chefs d'entreprise, sur les management package. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui investissent aux côtés de fonds et donc qui ont de plus en plus de problématiques soit de financement de management package, soit d'exit. Et on est en train de développer une expérience.
Vous aimez les entrepreneurs, vous aimez les patrons de PME notamment, quoi.
On aime beaucoup les entrepreneurs et les patrons de PME.
Ludovic, une dernière question, si elle est pertinente uniquement.
J'ai tenté effectivement de poser une question intéressante. On va parler du recrutement, puisqu'on sait aussi que c'est un marché compétitif. Comment vous faites aujourd'hui avec une marque dans le secteur bancaire pour arriver à attirer, déjà d'une part, et puis on sait qu'on est sur un marché de services qui est très intuitif, oui, personnel, oui, et ce qui est important pour recruter, oui, des clients, donc pour arriver à les faire venir et surtout à leur proposer un parcours de carrière.
Ce que nous avons aussi, ce sont des collaborateurs qui sont jusque-là heureux de travailler chez Mileis et qui en parlent. Et je trouve, enfin, nous trouvons que le meilleur canal de recrutement, c'est le bouche à oreille. Deux collaborateurs existants qui recommandent d'autres, des amis, voilà, exactement, la cooptation. La cooptation fonctionne très bien chez nous.
Arnaud ?
Oui, vous avez parlé de la différenciation, Nicolas, dans votre offre. Alors, je vais vous poser une question un peu pro-domo. Il y a une place pour le private equity dans l'offre que vous avez auprès de vos clients ?
Il y a une place qui est de plus en plus grande. Je ne vais pas citer de marque ou de fonds ici, mais nous avons effectivement plusieurs sociétés de gestion de private equity avec lesquelles nous travaillons et qui et dont nous distribuons les produits. C'est encore un produit qui reste limité, c'est-à-dire que nos clients s'habituent au private equity, mais oui, on développe, et là nous allons proposer un nouveau produit d'une très 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 belle société de gestion américaine, hélas, mais très belle société de gestion néanmoins. Les deux autres sont françaises, avec lesquelles nous travaillons dans les prochaines semaines.
Venez voir, on peut en parler après. Vous avez raison d'en proposer du private equity, surtout quand on voit les variations de la bourse aujourd'hui.
Et accessoirement, nous sommes détenus par un fonds de private equity, donc nous connaissons bien le secteur du private equity.
Alors, c'était ma question suivante.
Tant mieux.
Justement, on dit souvent que la banque en France est une activité extrêmement peu rentable parce que la plupart des produits régulés permettent à une famille de mettre une somme assez conséquente, globalement hors fiscalité, sur des produits qui sont absolument identiques dans toutes les enseignes. Du coup, la question, votre investisseur, il est satisfait ?
Il est satisfait. Il est satisfait. Alors, dans un investissement, il y a les conditions d'entrée et puis les conditions de sortie. Donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Sur la rentabilité de la banque, vous avez raison. La banque traditionnelle est, d'une manière générale, peu rentable. Est devenue peu rentable du fait notamment des contraintes prudentielles qui sont extrêmement élevées. Le secteur dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la banque privée, elle est peu consommatrice de fonds propres. Et donc, elle permet, en fait, avec relativement peu d'investissement en fonds propres, de développer une activité et donc d'atteindre un niveau de rentabilité élevé.
Vous avez combien d'agences ?
Alors, on appelle ça des espaces patrimoniaux.
Pardon.
Non, mais pas du tout.
On
n'a
pas de faute de langage. En tout cas, ça correspond à des agences, non ?
Je vous invite à en visiter. Nous sommes désormais en étage. Donc, on n'est plus sur une agence traditionnelle. On n'a plus de coffre, on n'a plus de DAB, on n'a plus de guichet. On en a 24.
Partout en France, hein,
à peu près partout en France, avec des grandes et des moins grandes, à peu près partout en France. Là aussi, on suit vraiment le tissu du PIB par habitant français.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous diriez aux clients qui se plaignent à l'heure actuelle de plus en plus ? Je le ressens, là, tous nos family office et tous ceux avec qui on travaille, qui se plaignent de la lourdeur de la réglementation. On ne peut plus faire un virement sans mettre 250 papiers autour. Est-ce que chez vous, vous faites un effort particulier, et donnez-nous des exemples en termes d'ergonomie et de facilité pour le client.
Alors ça c'est pas une question complètement facile. La réglementation, elle est là avant tout pour protéger les clients. Il faut pas l'oublier. Elle est là pour protéger les clients. S'il y a une réglementation, c'est qu'il y a eu des excès dans le passé. Il y a eu des excès en banque d'investissement, il y a des excès en banque de détail. Et on ne peut que constater que le secteur bancaire français est extrêmement solide parce qu'on a une réglementation qui est effectivement contraignante, avec un régulateur qui est exigeant, mais une fois de plus, qui protège les épargnants. C'est pour ça que le secteur bancaire français, il est très sûr. Il est très, très sûr. Ce que nous faisons chez Mileis, c'est qu'une fois de plus, là, on a des systèmes, évidemment, mais on a de l'humain. Et c'est l'humain qui peut aider. Simplement, oui, quand vous faites un gros virement, on va vous rappeler et on va vous demander de confirmer que c'est bien vous qui avez fait ce virement, et on va le faire de façon agréable, sympathique, humaine.
Mais c'est très bien.
Mais on va quand même le faire.
Ah, c'est magnifique.
Si demain vous virez 500 000 euros à Moscou, par exemple, on va quand même se poser des questions, mon ami. Dites-vous, il y a d'autres marques, Nicolas, dans le groupe ? Il y a d'autres activités ? Vous avez arraché des choses au sein de l'entreprise, du coup ?
Alors absolument. On est en train de finaliser l'acquisition de Cholet-Dupont-Houdard, qui est une très belle banque privée, là aussi, qui est une vieille dame, puisqu'elle, elle date d'avant la Révolution française, donc encore plus vieille que...
Ah, c'était avant l'époque des francs.
Oui, absolument. C'est une banque privée donc, qui sert des clients haut de gamme, qui est basée, elle, pour le coup, exclusivement à Paris, et qui trouve ses origines parmi les agents de change il y a quelques années, avec une très très belle expertise en titres cotés.
En titres cotés, quoi. Votre vision du patron de l'ETI en France, à la française, vous en pensez quoi? Vous êtes quand même un super observateur, vous connaissez bien l'économie française, également Nicolas. On en manque, c'est bien, il faut les aider.
Alors, les ETI, c'est à peu près un tiers de l'économie française, donc c'est un très gros secteur. Les ETI, j'allais dire, elles sont effectivement ni des petites, ni des PME, ni des start-up, ni des grandes entreprises. Donc, elles sont à mi-chemin entre ces différents segments. Moi, je trouve que ce sont des entrepreneurs, ce sont des patrons courageux, ce sont des gens qui veulent développer leurs entreprises.
Donc, vous les aimez.
Voilà, il y a 26 licornes quand même parmi les ETI françaises. Donc, c'est aussi un vivier de croissance et de développement et de rayonnement de la France.
Nicolas, côté perso et côté vin, vous avez investi dans des GFV.
Oui.
Ouais, donc, vous êtes propriétaire de dans quelle région?
Alors, Bourgogne, Côte de Beaune, Côte de Nuit.
Bravo.
Et Côte Rôtie. Ça, c'est mon petit chouchou, j'aime la Côte Rôtie.
Bon, aussi Ludovic et Arnaud, je vois quoi. Mais Bourgogne atteint des prix délirés. L'autre jour, l'ouvrait à 5 millions, ça veut dire que ça valorise l'hectare à plus de 120 millions d'euros.
Oui, mais c'est un investissement de cœur et de goût.
Absolument. Alors justement, en parlant de goût, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation du foie gras. Comment on le préparait? Vous prenez un foie,
je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un championnat du monde du foie gras, mais je le présenterai. Non, mais alors, non, je suis champion du monde de la fainéantise pour préparer un foie gras, puisque je le fais au micro-ondes. Oui, mais ça marche très bien.
Et vous mettez quoi? De l'armagnac? Vous mettez des petites choses dedans?
Non, mais tout. Enfin, armagnac, cognac, et puis je goûte. Mais l'assaisonnement.
C'est fondamental. Et alors, pour terminer, vous qui supportez le PSG, à votre avis, dans les 30 prochaines années, ils vont la gagner, cette grande Coupe d'Europe ou pas?
Vous avez d'autres questions? Non, vous n'avez pas d'autres questions?
Non, je mets de questions.
Je botte en touche. Oui, ils vont la gagner, bien sûr.
Bon, très bien. C'était certainement, en tout cas, on le souhaite, la bonne réponse. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, bon vent pour Milice Bank. Le site internet, l'adresse, c'est quoi? C'est Milice Bank, tout court.
Milice.fr.
Merci également à vous, Arnaud et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.